Le texte qu'on va lire ensemble nous parle d'un prophète. Alors on a terminé une série dimanche dernier sur le livre de Josué. On va commencer une nouvelle série aujourd'hui. On parle d'un prophète qui avait vraiment la conscience de Dieu au niveau de la création, particulièrement comme on vient de le chanter maintenant. Et ce prophète s'appelle Jonas. Si je vous parle de Jonas, donc j'attends des réponses, hein, ça veut dire que j'attends vos réponses. Si je vous parle de Jonas, à quoi pensez-vous? Au poisson. Il y en a qui ont faim. Alors, au poisson, pourquoi? Hein, voilà. Alors, bien sûr, c'est un événement qui est emblématique et qui est même certainement universellement connu. Ça va même au-delà des personnes qui sont à la foi ou pas à la foi. Hein, c'est vraiment quelque chose de particulier. Quoi d'autre concernant Jonas? Ninive. D'accord, c'est une destination touristique. D'accord, alors très juste, Ninive, c'est, alors on entend parler de Ninive, visiblement c'est la Ninive antique était plus en face de Mossoul. On a aussi entendu parler de Mossoul avec les conflits récemment. Toutes ces remarques, bien évidemment, on le retrouve dans le livre de Jonas, le livre qui est consacré à un épisode spécifique de la vie de Jonas. Mais savez-vous qu'il est question de Jonas ailleurs dans la parole de Dieu ? Et si vous avez les petites Bibles qui sont près de vous, je vous invite à aller à la page 269 dans le deuxième livre des Rois au chapitre 14. Et il est question de Jonas. Et donc il est question du roi Jéroboam II. Alors à l'époque, Israël est coupé en deux. Il y a le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume de Juda qui est en bas avec 2 tribus. Donc Jéroboam II, lui, concerne les 10 tribus qui sont donc au nord. Verset 23, regardez. La 15e année du règne d'Amatsia, fils de Joas, sur Juda. Alors quand on repère les rois, c'est toujours en relation avec le règne d'un roi de Juda par rapport à un roi du dessus et inversement. Hein. Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, donc des 10 tribus au nord, devint roi à Samarie, qui était la capitale. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée d'Amath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittaï de Gath-Hépher. En effet, l'Éternel avait vu le malheur d'Israël, était à son comble, et il n'y avait personne, ni esclave, ni homme libre, pour venir à son secours. Or, l'Éternel n'avait pas parlé d'effacer le nom d'Israël de dessous le ciel, et il les délivra par l'intermédiaire de Jéroboam, le fils de Joas. Le reste des actes de Jéroboam, tout ce qu'il a accompli, ses exploits au combat et la manière dont il a ramené sous l'autorité d'Israël Damas et Hamath, villes qui avaient appartenu à Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jéroboam se coucha avec ses ancêtres, avec les rois d'Israël. Son fils Zacharie devint roi à sa place. Donc dans ce court résumé de ce règne de Jéroboam II, il est question de Jonas. Et quand on est prophète de l'Éternel, c'est plutôt gratifiant d'annoncer le rétablissement des frontières. C'est-à-dire que Israël était oppressé et sous ce règne, ils ont pu retrouver les différentes frontières. Surtout, c'est excellent quand on aime son pays, sa nation, son peuple, d'avoir à dire ben, on va retrouver les frontières et ça se passe. Ça change de beaucoup de prophéties d'autres prophètes qui, eux, ont dû annoncer, par exemple, la déportation ou le jugement. Et quand on aime son pays, annoncer une telle chose est souvent pas. Ça doit faire un pincement au cœur. Mais pour Jonas, s'il a eu la joie de pouvoir annoncer le rétablissement de ses frontières, ça a été beaucoup moins grisant pour lui et pour son sentiment national d'être le prophète qui a été sélectionné pour annoncer la repentance à l'ennemi juré, c'est-à-dire à Ninive, comme on l'a dit, Il a été appelé par l'Éternel pour appeler à la repentance Ninive. Ninive, c'est les Assyriens, et les Assyriens étaient la puissance étrangère, hostile, et qui faisait de nombreux raids en Israël. Si on devait comparer, l'histoire de Jonas pourrait être comparée à l'histoire d'un prophète juif qui, dans les années 1930-40, est appelé à Berlin pour appeler les Berlinois de l'Allemagne nazie à se repentir. C'est à peu près ça que lui demande l'Éternel de faire en allant à Ninive et de prophétiser, d'appeler à la repentance. Alors, si on était dans le cas de Jonas, je pense qu'on aurait fait certainement pareil. Aller dans un endroit qui est le nid de vipères de nos ennemis jurés, on aurait certainement pris la direction opposée et on aurait certainement pris le premier paquebot venu pour aller, je ne sais pas, de l'autre côté, aux États-Unis ou ailleurs. Parce qu'en effet, l'Éternel va demander à Jonas de partir de là où il est, de la Samarie triomphante, et d'aller à 800 km pour aller dans la ville assyrienne de Ninive, pour annoncer la repentance. Il faut savoir que les Assyriens, en termes de cruauté, avaient, je pense, à peu près autant d'égal que les nazis ou l'État islamique. Vous trouverez facilement, en regardant sur Internet, si vous tapez « cruauté assyrienne » dans le moteur de recherche, vous trouverez assez facilement tout ce dont ils étaient capables. Par exemple, il y a un texte qui est écrit de leurs mains et dont ils sont assez fiers, c'est donc vu qu'ils l'ont écrit eux-mêmes, qui dit ceci. « Je bâtis un pilier devant la porte de la ville et j'écorchais tous les chefs qui s'étaient révoltés contre moi. J'étalais leur peau sur le pilier. Certains d'entre eux, je les emmurais dans le pilier. D'autres, je les empalais sur des pieux. Je coupais les bras, les mains. D'autres, je coupais le nez, les oreilles. J'arrachais les yeux de nombreux soldats. Je fis une pile de vivants et une autre de têtes. » Ça, c'est les Assyriens. Et Dieu demande au prophète Jonas d'aller prêcher la repentance dans la capitale des Assyriens. Malgré cette difficulté, malgré l'ampleur de ce que Dieu demande, ce que l'on va pouvoir voir ce matin, c'est qu'il vaut mieux être là où l'Éternel nous attend, même si ça dépasse notre entendement. Et être là où le Seigneur nous attend, c'est être dans la présence de l'Éternel. Très intéressant ce texte que l'on va pouvoir lire au premier chapitre du livre de Jonas, mais juste avant la lecture, j'ôte une ombre qui est souvent sur ce livre et qui plane souvent sur ce livre. Est-ce que le livre de Jonas est-il vrai ou est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que c'est plutôt une fable, un mythe, une allégorie, une pièce de théâtre, quelque chose de ce style? Ou est-ce que c'est une histoire vraie? Alors, il a été question de poissons, hein, c'est surtout cet aspect-là qui pose beaucoup de questions. Et alors, je vous avouerai que je ne suis pas un grand spécialiste de la pêche au gros, ni des poissons. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Mais toujours est-il que dans la Bible, on a une attestation massue, évidente, qui nous montre que cette histoire est vraie. Allez à la page 626, où vous trouverez le 12e chapitre de l'Évangile de Matthieu, le verset 38. Page 626, Matthieu, chapitre 12, le verset 38. C'est un passage avec Jésus, bien sûr, où il y a quelque chose qui lui est demandé. Verset 38, chapitre 12 de Matthieu. « Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Entre parenthèses, il y en avait eu quelques-uns et nombreux avant. Hein. Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Alors dans ce texte, on voit clairement que Jésus cite précisément l'histoire de Jonas. Et pas uniquement l'histoire de Jonas, mais particulièrement la partie avec le poisson, avec les termes spécifiques. Et cela pour le mettre en relation avec sa mort et sa résurrection. Alors, soit Jésus dit quelque chose de faux, soit Jésus dit quelque chose de vrai. Alors, on a l'attestation qui dit quelque chose de vrai, parce qu'il le met en relation avec sa résurrection et qu'effectivement, il est mort et ressuscité. Donc, Jésus, faisant le lien entre les deux, nous donne une attestation évidente que l'histoire de Jonas, même si elle est incompréhensible à nos habitudes, à tout ce qui se fait habituellement, l'histoire de Jonas est une histoire qui est vraie. Et que ce n'est pas une fable, ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas une allégorie, c'est une histoire qui est vraie. Alors, on va la lire. Et je vous invite à chercher le livre de Jonas au chapitre 1. Donc, c'est dans les petits prophètes, à la fin de l'Ancien Testament, page 594. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas, descendu au fond du bateau, s'étant couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Venons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu ?» Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Les hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il leur déclara. Ils lui dirent « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Avant qu'on puisse s'arrêter sur peut-être ce qui est central dans ce texte, j'aimerais peut-être puisse voir 2-3 choses avant. La localisation de Tarsis, là où va Jonas, n'est pas vraiment certaine. On pense habituellement que c'est en Espagne, mais ça pourrait être en Tunisie ou en Sicile. Peu importe, c'est carrément à l'opposé de là où il devait aller. Et puis, il devait faire 800 km dans un sens et il va en faire presque 3 000 à 3 500 dans l'autre. Donc en fait, Jonas va se trouver à 4 000 km de là où l'Éternel l'envoyait. On a chanté tout à l'heure, je connais le Créateur du monde. Et ici, on a un texte fantastique qui nous montre que l'Éternel est maître de la création, hein, capable de faire démarrer cette tempête, capable de l'arrêter en un instant. Je pense que pour les marins qui étaient des professionnels, de voir tout d'un coup la tempête démarrer et puis tout d'un coup s'arrêter d'une manière brusque, c'est quelque chose qui est marquant. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une tempête, mais je peux vous dire que c'est particulier, hein, surtout quand on est dans l'eau et pas dans un bateau dans une tempête. C'est assez fort de voir la force que peut avoir la mer. Mais j'ouvre juste une parenthèse qui est excellente à nous qui avons l'habitude de lire la parole de Dieu. C'est-à-dire que là, on a un épisode avec une tempête où on voit la puissance et la force de l'Éternel. Et tout à l'heure, on lisait dans les évangiles. Et dans les évangiles, il y a aussi un passage qui est comme ça, avec Jésus et ses disciples, où ils sont terrifiés. C'est aussi des professionnels de la mer, de l'eau. Ce n'est pas une mer, hein, c'est plutôt un grand lac. Et tout d'un coup, ils sont saisis de terreur au milieu d'une tempête. Et Jésus, d'un mot, calme la tempête. Les disciples, ils connaissaient l'histoire de Jonas. Pour eux, les disciples, seul l'Éternel est capable de pouvoir avoir le contrôle sur les éléments. Et là, ils voient Jésus avoir le contrôle sur les éléments, donc ils ont compris qui était Jésus. Jésus est Dieu. Et c'est pour ça de mettre en relation les passages que Dieu a consignés d'une manière régulière dans la parole de Dieu, c'est pour donner un éclairage aussi de sa révélation aussi au travers de Jésus. Alors, il n'est pas que question de Jonas, hein, dans ce texte, il est question aussi des marins. Et visiblement, ces marins sont des professionnels, ils savent y faire quand il y a une tempête. Mais, comme ils connaissent bien la mer, ils se rendent compte que cette tempête n'est pas habituelle. Ils vont aussi considérer l'inaction des divinités auxquelles ils s'adressent au moment où il y a cette tempête. On en a parlé, mais on voit à nouveau ici que, d'une manière évidente, la stérilité de toutes ces divinités ou ces autres croyances. C'est bien beau la tradition, c'est bien beau la culture, c'est bien beau tous ces aspects qui sont souvent en lien avec les peuples, avec les habitudes. Mais quand on est face à quelque chose de concret, de réel, de vivant, et seul l'Éternel est actif. Et ça, Dieu va le montrer d'une manière régulière, génération après génération. Toutes ces divinités, toutes ces superstitions, toutes ces choses qui sont faites sont stériles. Seul l'Éternel est actif. Et ici, les marins l'ont très vite compris, dès que Jonas déclare pour qui il est le prophète, ils n'ont pas besoin d'heures et d'heures de théologie, d'enseignement, etc., pour qu'ils s'en remettent réellement à lui. Et en somme, ce que vivent les marins ici est intéressant pour nous, c'est-à-dire que leur professionnalisme, leurs croyances traditionnelles, l'énergie qu'ils ont mis à essayer de se sauver eux-mêmes n'a servi à rien. Seul l'Éternel a réussi à les sortir de ce péril. Et c'est un peu pareil pour nos vies. Ce que l'on a pu capitaliser avec notre expérience, avec ce qu'on a pu mettre de côté, dans nos assurances, dans beaucoup de choses, notre expérience, nos croyances traditionnelles, ce qu'on a essayé de bien faire, ne nous sortira pas de la tempête du jugement de l'Éternel. Seul l'Éternel peut nous sortir de la tempête du jugement qui tombera sur chacune de nos vies au travers de Christ. Et tout ce qu'on a pu faire, tout comme les marins, hein, ils ont essayé de bien faire, n'a servi strictement à rien. Seul l'Éternel peut nous sortir de la tempête du jugement certain qui tombera sur toutes nos vies, au travers de Christ. Alors revenons à Jonas. Jonas, ce n'est pas un sous-prophète, c'est un vrai prophète. Jonas est un vrai prophète, et si on regarde bien, il sait et il connaît bien l'Éternel. Il sait que si il va à Ninive, Le risque, c'est que les Ninivites se repentent. Et lui, il n'a pas envie. Il sait aussi que l'Éternel est souverain sur sa création. Il sait très bien que la tempête est dirigée parce qu'il désobéit, il va à l'encontre de ce que Dieu lui demande. Et il sait très bien que pour l'arrêter, le problème, c'est lui. Donc, Jonas est quelqu'un qui connaît très, 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 très bien l'Éternel. Mais on voit aussi que c'est une sacrée tête de mule. Parce qu'il faut quand même en avoir une bonne couche pour qu'en pleine tempête, qui ne semblait pas une petite tempête, se dire « ouais, ouais, ben je vais descendre en cale et me piquer un petit roupillon ». Et pas juste se le dire, visiblement, il dormait profondément. Mais il faut quand même avoir une sacrée volonté pour se dire qu'on va faire ça dans une pleine tempête. On voit aussi qu'il a un sacré caractère dans le sens qu'il va à 4000 km de là où l'Éternel lui demande d'aller. Le cœur du problème de Jonas, c'est qu'il n'a pas envie que l'Éternel pardonne aux Assyriens. Il n'a pas envie que les Ninivites se repentent. On le verra, c'est marqué noir sur blanc, chapitre 4, au verset 2, où il va se mettre à râler. « Ah, je savais bien que tu es un Dieu de grâce et que tu allais pardonner ces Ninivites, pour faire court. » Et en fait, ça rejoint ce que l'on disait dimanche dernier. Hein ? Dimanche dernier, on s'est posé la question « Quelles sont les idoles dans ma vie qui, finalement, ont plus d'importance que l'Éternel ?» Plus d'importance que me demande l'Éternel. Hein, on s'était dit, ce n'est pas forcément une star du tennis ou bien une statue d'un Bouddha qui est le plus, auquel on s'accroche le plus dans nos vies, mais c'est peut-être des choses qu'on a, des objectifs de vie, des valeurs que l'on a au fond de nous qui sont des fois plus importantes que l'Éternel lui-même. Et ici, c'est évident. Pour Jonas, l'amour pour son pays ou la haine pour ses ennemis est plus forte que tout, plus forte que l'appel de l'Éternel. Son aspect national ou sa haine pour les Assyriens, alors peut-être que les Assyriens avaient eu quelque chose, avaient fait quelque chose pour sa famille ou des personnes qu'il connaissait, hein, mais sa haine pour les Assyriens ou son amour pour son pays était plus forte que l'ordre de l'Éternel. Et ça, c'est un type d'idole concret qu'on peut avoir dans nos vies. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être des objectifs de vie, ça peut être voilà, des attaches sentimentales, des choses de ce type qui sont plus fortes que la personne de l'Éternel. Alors que, pourtant, il est très conscient de la grandeur de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'on s'était un peu lancé le challenge, dimanche dernier, d'essayer de réfléchir sur les valeurs qui sont très très importantes pour nous, et des fois peut-être plus importantes que Dieu lui-même. Alors c'est pas évident d'arriver à faire cette réflexion, parce que des fois on n'en est pas conscient. Ça imprègne tellement nos vies qu'on n'en est pas conscient. Hein ? Mais essayons de le faire. Peut-être en se disant, si ça m'était ôté, est-ce que je serai toujours attaché à l'Éternel ? Ou est-ce que ça, c'est encore plus fort que ce que Dieu me demande de faire ? Mais ce qui m'a encore plus impressionné dans ce texte, en le lisant, pourtant, tout comme vous, ce n'est pas la première fois que je lisais l'histoire de Jonas. C'est une histoire qu'on raconte fréquemment aux enfants, parce que c'est une histoire un peu spectaculaire, mais elle est à la fois pour les enfants et les grands-enfants comme nous. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de considérer ce qu'a fui Jonas. Qu'est-ce que fuit Jonas ? C'est une question, j'attends une réponse. Qu'est-ce que fuit Jonas ?
L'obéissance.
Alors l'obéissance, encore plus fort. Regardez avec moi le verset 3. Si vous avez vos Bibles à vous, vous pouvez entourer ce verset. Si vous l'avez sur votre smartphone, vous pouvez graver l'écran. Mais ça ne va pas rester. Hein. Non, mais vous pouvez mettre un tag. Regardez le verset 3. Qu'est-ce que fuit Jonas ? La présence de l'Éternel. Et c'est rappelé deux fois. Il y a très peu de versets qui nous parlent de la présence de l'Éternel. Hein, on va en trouver quelques-uns avec le tabernacle et Moïse. Mais je crois que c'est l'unique verset où deux fois il est fait mention de la présence de l'Éternel. Jonas fuit la présence de l'Éternel. C'est fort, hein? Si on replace ça dans son contexte, ça veut dire que là où l'Éternel attendait Jonas, c'était la présence de l'Éternel. Il était dans la présence de l'Éternel. Là où Dieu lui demandait d'aller. Hein? Être dans sa présence, c'était être là où l'Éternel l'attendait. Être dans la présence de l'Éternel, pour nous, est-ce que c'est être là où le Seigneur nous attend? Et souvent, quand on pense à la présence de l'Éternel, on s'attend à quelque chose d'un petit peu mystique, d'un petit peu fort, comme Moïse dans le tabernacle, où il sort, après il est marqué par cette présence. Mais ce verset nous dit que là où l'Éternel attendait Jonas, c'était ça la présence de l'Éternel. C'était être dans sa présence. Et la répétition qui est dans ce verset nous montre combien c'est important, combien c'est capital. C'est répété deux fois. Il n'a pas fui les Assyriens, mais il est allé loin de la présence de l'Éternel. En fait, si je suis là où l'Éternel me veut, je suis dans la présence de l'Éternel. D'une autre manière de le dire. Alors, la présence de l'Éternel, être là où il nous attend, ça peut être d'une manière spécifique. Là, on voit avec Jonas, il lui dit clairement, tu dois aller là. Donc, Jonas aurait dû y aller. Mais c'est pas, même à Jonas, ça ne lui est pas arrivé tous les matins, il n'a pas ouvert son poste de radio pour savoir là où l'Éternel lui demandait d'aller. Des choses qui arrivent d'une manière très spécifique. Et on en a l'écho tout au long de la parole de Dieu. Dieu peut appeler d'une manière spécifique à aller dans un endroit. Et même pour nous, on peut ressentir le fait, avec une conviction forte, que Dieu manifestement nous appelle à aller à un endroit particulier. Donc ça, c'est un aspect spécifique. Mais ce que Dieu nous demande, d'une manière plus habituelle, je suis là où il me veut quand je suis là où il désire que je dois être. Et ce que Dieu désire pour tout homme, et pour moi en particulier, est clairement écrit dans sa parole. Dieu nous dit clairement où nous devons être, où nous devons nous positionner, où nous devons vivre là où nous sommes. Ce n'est pas un jeu de mystère. Toute la parole nous montre comment nous devons être là où il nous attend. Et c'est très bien consigné donc, dans la Bible. L'essentiel pour être à sa juste place, la manière d'être, est consigné dans la parole de Dieu. Être dans la présence de l'Éternel, eh bien, on a tout ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu pour pouvoir le connaître. Ma vie est dans la présence de Dieu quand je suis là où il me veut. Et je suis là où il me veut quand je vis ce qu'il demande. Alors ça m'a beaucoup encouragé parce que ça ne dépend pas de ce que je suis de capacité particulière. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, là où nous sommes, quel que soit notre âge, nos facultés, etc., on peut répondre à ce que Dieu nous demande simplement dans la parole de Dieu. Je suis dans la présence de l'Éternel si je vis ce qu'il me demande. Alors bien sûr, toute la parole est à considérer, hein, et c'est vivable, bien sûr, c'est faisable au travers de Christ. Et ce n'est pas quelque chose de particulier, un instant un peu mystique, où je vais avoir une connexion toute particulière, spéciale, à un moment donné. Non, Dieu ne nous donne pas juste à vivre, juste des instants avec lui. Il veut vivre tous les instants avec nous. Alors il y a un chant que j'aime beaucoup et que j'ai chanté plein de fois, qui nous met aussi dans les dispositions pour vivre les moments de culte, mais qui peut des fois aussi nous tromper, de nous faire croire que finalement on est en connexion avec Dieu, on est en phase avec Dieu, que dans les moments où on est un petit peu tous ensemble, ou quand il y a peut-être plus d'allant dans les moments de culte. Vous connaissez ce chant? Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Et alors c'est magnifique ce chant, parce que c'est un chant que j'aime beaucoup, qui nous prépare à ces moments de culte, mais ça pourrait aussi nous faire croire que la présence de l'Éternel n'est que dans des moments spéciaux où on va se retrouver ensemble. Non, la présence de l'Éternel, c'est là où il me veut. Et là où je peux savoir comment être comme il me veut, la parole de Dieu nous dit clairement tout ce qui est nécessaire, déterminant, pour être simplement là où je dois être. La parole de Dieu n'est pas là pour nous raconter des histoires, mais pour nous révéler qui est Dieu. Et là, simplement, on peut admirer la souveraineté de Dieu. Dieu sait tout aussi dans ce texte. Ça ne lui a pas échappé, le fait que Jonas est allé dans une agence de voyage pour partir de l'autre côté. Rien n'échappe à l'attention de Dieu. Et je trouvais que c'était bien de donner un prolongement à ce texte en lisant le psaume 139.
Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. »